Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là, je vous accompagne au cours des 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. L'herpès, oui, génital qui affecte environ un Canadien sur cinq et qui en fait l'une des affections transmissibles sexuellement, ITS, les plus répandues en Amérique du Nord, en Europe également. Le fait d'être bien informé, ça peut nous permettre de diminuer les impacts sur notre vie. Je dirais aussi de détabouiser cette maladie-là, de mieux la comprendre, mais surtout de limiter les risques de transmission. J'en parle avec le docteur Gabriel Landry de la Clinique A en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, bien des gens sauront se reconnaître, des gens qui ont 50 ans et plus et qui ont vu apparaître avec le temps des petits ennuis de santé qui n'étaient pas là auparavant, des maux chroniques qui s'installent, des symptômes jusqu'alors inexistant. Et tout ça, ça amène des inquiétudes. Ça peut fragiliser aussi, augmenter le taux d'anxiété. Docteur Harold Dion, lui qui est médecin en médecine familiale, a eu envie d'écrire un bouquin pour ces gens-là, pour ces gens qui vieillissent. Et en tout cas, on n'y échappe pas, personne. Un petit peu un guide d'entretien pour le corps. SOS Docteur, les petits et grands maux des 50 ans et plus. On en parle dans quelques instants. Bonjour, Dr Dion.
Bonjour.
Merci d'être là. J'apprenais dans votre livre qu'au Québec, on compte plus de 350 000 baby-boomers et que la plupart, bon nombre d'entre eux, du moins, n'ont pas de médecin de famille. Ils sont bien sûr, et ça c'est facile à saisir, plus à risque de souffrir de différentes maladies chroniques. Et dans votre livre SOS Docteur, les petits et grands maux des 50 ans et plus, vous utilisez des cas fictifs pour illustrer vos propos, donc des figures de cas, des cas que vous pourriez rencontrer dans votre cabinet, tout ça en langage très, très simple et qui recense les mots les plus courants qui amènent les 50 ans et plus à vous consulter. Quels sont les mots qui touchent davantage les gens de 50, 55, 65, 60 ans, oui et plus?
Bien, en fait, il y en a plusieurs, mais il est normal, quand on arrive à 50 ans, que les articulations sont moins souples, puis les muscles, les tendons commencent à faiblir un peu, les artères deviennent plus rigides. Et alors, donc, ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est les problèmes d'arthrose, mm-hmm. donc les douleurs articulaires, l'hypertension et les problèmes d'audition. Je pourrais vous dire que c'est les trois choses qu'on rencontre les plus souvent dans notre pratique.
Est-ce que c'est vrai que les baby-boomers s'occupent davantage ou mieux de leur santé que si on reculait de 30, 40, 50 ans?
Oui, effectivement, cette génération-là s'occupe mieux de leur santé que la génération précédente. Essentiellement parce qu'ils veulent vieillir en santé, justement, ouais. Et puis ils veulent avoir une longue retraite là, active puis continuer à s'épanouir.
Donc, c'est une bonne chose, mais en même temps, avec le web qui est extrêmement présent, et on le sait, les gens de 50 ans et plus sont très présents sur le web, naviguent très facilement, ils ont accès à une panoplie d'informations qui peuvent parfois, j'imagine, un petit peu les mélanger. Est-ce que vous, ça a changé votre pratique avec ces gens-là, c'est-à-dire des gens qui entrent, qui sont informés, mais parfois désinformés également?
Oui, en fait, oui, effectivement, c'est un des rôles qu'on a de plus en plus, les médecins, c'est de plus orienter, bien, en tout cas, d'informer les patients, puis de les orienter vers des sites là, Internet là, scientifiques et fiables.
Donc, les gens se présentent avec ces différentes interpellations liées à leurs mots, petits et grands mots, maladies chroniques. Vous en illustrez, vous en abordez différentes à travers votre livre. Et on va tenter ensemble, pour les minutes qui nous sont accordées, de passer à travers ces mots-là. Le dos, par exemple, et ça, vous en parlez. Les maux de dos qui sont très, très fréquents pour ces gens-là, quoique pour la population en général. Est-ce qu'il y a moyen de les prévenir, les maux de dos?
Oui, effectivement, c'est je pense qu'on l'a mentionné au début, c'est mm-hmm. de en restant actif mm-hmm. continuellement. en faire attention de quand on lève des objets lourds, oui. de ne pas les porter à bout de bras. Lorsqu'on se tourne, par exemple, on tourne notre corps au complet, pas juste le tronc. Lorsqu'on pelle, on prend une pelle économique, une pelle ergonomique. Mm-hmm. Donc ça diminue l'impact sur le dos.
Mais il faut rester actif tout de même.
Oui, c'est très important. Ça augmente la mobilité des vertèbres, puis ça garde les muscles forts et les tendons.
Hypertension, maintenant, un moyen d'éviter, de prévenir l'hypertension?
L'hypertension, bien, en vieillissant, on est plus sensible au café, on est plus sensible au sel, au stress.
Ouais.
Donc, c'est des choses qu'on peut contrôler. Puis en vieillissant, des fois, on prend un peu de poids. Donc, ça peut augmenter la résistance. Donc, c'est l'importance de maintenir un poids santé.
Il y avait aussi ce que vous me disiez tout à l'heure, tout ce qui est lié aux tendons. On parle des coudes, les articulations, les genoux. Bien sûr, ça fait partie du processus de vieillissement. Là, c'est un petit peu inévitable. Et là, je vous vois sourire.
Oui, effectivement.
Bon, on ne peut pas nécessairement prévenir, mais j'imagine qu'il y a des façons d'alléger ces douleurs-là. Parce que les douleurs, vivre avec la douleur chronique, ça a quelque chose d'extrêmement fatigant aussi.
Oui, c'est sûr. Mais en fait, la plupart des gens... Non, pas des douleurs chroniques. Il y en a quelques-uns quand même. La plupart des gens vont peut-être avoir des crises par-ci, par-là, mais c'est jamais continu, mm-hmm. effectivement. Donc, alors quand ça se produit, on peut prendre un médicament contre la douleur ou on peut prendre un anti-inflammatoire ou bien appliquer de la glace. Normalement, ça rentre dans l'ordre dans quelques semaines.
Est-ce que vos patients sont enclins à prendre des médicaments? Est-ce que vous devez plutôt les convaincre ou du moins peut-être même que vous tentez d'éviter la prescription? Comment ils réagissent face à ça?
Oui, la plupart du temps, on n'a pas besoin de rien prendre. Ça rentre dans l'ordre seul.
Mm-hmm. Bon, le temps, oui.
Oui, ce sont habituellement une couple de semaines, rarement jusqu'à un mois. Mm-hmm. Mais... Donc, c'est vraiment juste au besoin. L'isoléol, c'est pas vraiment un gros médicament, mais ça peut quand même bien soulager. Ou de la glace. Des fois, c'est juste de porter des chaussures plus confortables.
Ouais.
Ou se mettre un bandage, par exemple. Puis peut-être bouger à chaque heure pour empêcher les articulations de devenir plus rigides.
Mm-hmm. On revient là-dessus sur un mode de vie actif pour les gens qui ont 50, 60 ans, qui ont peut-être qui sont moins actifs, moins portés à introduire dans leur vie des activités sportives. Qu'est-ce que vous leur dites pour les motiver, pour peut-être leur proposer différentes activités qui sont adaptées à eux?
Bien, en fait, c'est vraiment choisir une activité qu'une personne aime particulièrement. Ça va augmenter sa chance qu'elle va maintenir cette activité-là. Puis ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être marcher, ça peut être du jardinage, ça peut être jouer avec les enfants.
Mm-hmm. Ça peut être petits-enfants.
Des petits-enfants aussi, oui. Puis ça peut être prendre l'escalier ou prendre l'ascenseur. Puis ça sonner l'auto un peu plus loin pour aller au travail.
Ouais.
Et puis ça peut... Bon, idéalement, c'est 15 minutes. Bon, trois fois par semaine, ça c'est le minimum. Si on en a fait 30, tant mieux. Si on en a fait 5 fois, tant mieux. Mm-hmm. Puis c'est pas obligé d'être continu. Ça peut être une minute par-ci, une minute par-là. On les accumule à travers la journée. Donc, on peut les intégrer dans les activités de tous les jours.
Je disais tout à l'heure, et ça vous faisait sourire d'ailleurs, Dr Dion, que certains mots, en fait, la plupart des petits mots, sont inévitables avec le processus de vieillissement, que ce soit avoir mal au genou, un petit peu au dos, ici et là. Il y a quelque chose aussi dans cette résilience-là, de voir notre corps changer, de voir ces symptômes-là qui apparaissent, qui étaient inexistants. Est-ce que vos patients vous disent qu'ils ont de la difficulté à gérer ou accepter ce corps en transformation-là qui amène son lot de nouveaux défis?
Ah oui, je pourrais vous dire que la majorité des gens n'acceptent pas ça. Ils me disent toujours « Ah, c'est pas drôle de vieillir ».
Oui, ben oui, on l'entend ça souvent. C'est pas drôle, vieillir, oui.
Mais il y a certains avantages quand même. Ben, en fait, si on l'accepte et puis on met en pratique les petits trucs que je mets dans mon livre, ça peut être très agréable.
Ouais.
Je pense qu'il y a quand même des bons côtés. Il y a quand même... Ouais, c'est sûr que le corps nous abandonne, mais quand même, on a un cerveau qui peut s'améliorer. Puis on a tellement d'expérience puis tellement de connaissances.
Ouais.
On peut même compenser quand on est jeune, on gaspille tellement d'énergie, là. Par manque d'inexpérience, que, mm-hmm. qu'en vieillissant, même on peut économiser son énergie, avoir moins de douleur, puis faire autant d'activités sans s'épuiser puis se faire mal.
Dans ces petits trucs-là, justement, que vous avez eu envie de véhiculer à travers le livre, il y a bien sûr l'importance à l'activité physique, à rester actif. Est-ce qu'il y en aurait d'autres que vous auriez envie de véhiculer, d'exprimer, peut-être par rapport au sommeil, entre autres? Je sais que vous faites des recommandations aussi à travers SOS Docteur, parce qu'en vieillissant, on est plus porté à l'insomnie.
Oui, mais avant d'entrer là-dedans, un autre truc que je trouve qui est bien important de mentionner, c'est d'arrêter de fumer. Vraiment,
ouais,
là.
Oui, oui.
Vraiment, la cigarette, ça cause beaucoup de dommages. Ça cause 25% des crises cardiaques. Donc, si on peut faire quelque chose d'autre là, qui peut nous aider, c'est arrêter de fumer. Oui, le sommeil, effectivement, ça peut être problématique en vieillissant parce que dans le cerveau, il y a une hormone qui s'appelle mélatonine. Et lorsqu'il commence à faire noir, bien, cette hormone-là, elle augmente dans le cerveau, puis ça nous dit, bon, c'est temps de dormir.
Oui.
Et quand on vieillit, bien, cette hormone-là, le taux baisse. Bien, les gens veulent absolument dormir 8 heures, mais c'est pas vraiment... Quand on vieillit, on a besoin de moins de sommeil. Donc, les gens peuvent fonctionner très bien avec 5, 6, 7 heures. Donc, en autant qu'on a 2, 3 cycles, bons cycles de sommeil, là, on peut fonctionner bien normalement.
Le cycle du sommeil change, donc.
Oui, c'est ça, oui. Bien, pas pour tout le monde, mais c'est quand même assez fréquent. Mais au fait, il y a 25% des gens qui vont avoir des problèmes occasionnels de sommeil. Ça veut dire qu'ils vont avoir de la misère à s'endormir ou à rester endormi. Il y en a vraiment juste 10% qui ont vraiment des problèmes chroniques.
Mm-hmm. De sommeil.
De sommeil. Donc, alors, ces gens-là, encore là, c'est diminuer le café, diminuer l'alcool, parce qu'on est plus sensible à ça. On est plus stressé aussi, donc on essaie de se détendre.
Mm-hmm.
Puis c'est d'avoir une bonne hygiène de sommeil. Toujours se coucher à la même heure, se lever à la même heure. Avoir un lit confortable, pas trop de bruit, température idéale. On tamise les lumières avant de s'endormir, une heure avant de se coucher. La mélatonine va augmenter un peu. On évite les tablettes, de lire sa tablette.
Au lit, oui.
Au lit, hein, parce que ça, c'est très... Il y a beaucoup de lumière. Puis le cerveau pense le jour.
Mm-hmm.
La télévision aussi, dans la chambre, c'est évité. Donc, on peut prendre du lait chaud. Dans le lait chaud, il y a du tryptophan qui est changé en mélatonine quand on le chauffe.
Ah oui, c'est ça le truc du bon vieux lait chaud.
Lait chaud, c'est ça. Sinon, on peut acheter la mélatonine aussi, ça se vend en pharmacie, non?
Oui. Le stress, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il est plus difficile pour les gens qui vieillissent de gérer le stress?
Pas nécessairement de le gérer, mais c'est plus difficile à supporter, je dirais. Non, en fait, je pense que c'est peut-être plus facile pour une personne âgée parce qu'on a plus d'expérience, on peut plus se contrôler.
Mm-hmm.
Mais dans la gestion du stress, il y a toujours l'activité physique, ça l'aide.
Oui.
Puis il y a encore, on a mentionné les cafés. Mais il faut accepter de vieillir, puis accepter qu'on n'a pas autant de résistance. Donc, on ralentit un petit peu nos activités.
Oui.
Puis on délègue les tâches.
Oh, c'est intéressant ça, déléguer les tâches.
Oui, c'est ça. Puis avoir un bon réseau d'amis, ça l'aide. Un bon réseau familial, un réseau d'amis. Rire.
Mm-hmm.
Ça, c'est toutes des choses qui détendent. Écouter de la musique douce, ça, c'est des choses qu'on aime faire quand on vieillit. Donc, je pense pas... C'est plus dans la tolérance qu'on a le plus... Puis d'accepter qu'on peut en faire autant qu'avant.
Oui. Dans votre livre, vous abordez également les troubles de mémoire qui, semble-t-il... ça arrive. Quoique ça arrive à peu près à tout âge, les trous de mémoire ou les troubles de mémoire... À quel moment on s'inquiète? Parce que j'imagine que ça, vous devez le vivre, Dr Dion, des gens qui arrivent, 50 ans et plus, qui ont oublié les clés, peu importe quoi, qui se disent, là, je suis inquiète, est-ce que je t'ai Alzheimer, docteur?
Oui, c'est la grande question. Oui, mais c'est normal. C'est normal d'oublier ses clés, ses lunettes, le nom d'une personne, le film qu'on a vu dernièrement, ça, c'est pas normal.
Mm-hmm.
Ce qui est pas normal, c'est de pas se rappeler de son nom, de la date, la journée de la semaine, de se perdre en route sur un parcours qu'on connaît très bien.
Mm-hmm.
Ça, c'est... Puis de mettre des choses dans le congélateur, peut-être. Là. Ça, c'est un peu plus grave.
Oui, de mettre les clés dans le congélateur et de les oublier par la suite.
C'est ça, parce qu'ils ne vont pas là normalement.
Ça, c'est plus inquiétant. C'est plus inquiétant aussi pour les proches, dans ce cas-là. Est-ce que vous encouragez parfois les proches, que ce soit les enfants, peut-être même les petits-enfants, à accompagner vos patients dans votre cabinet pour soit rassurer ou pour mieux comprendre aussi? Parce que tout à l'heure, quand je parlais de notion de stress, c'est de se retrouver devant un médecin, d'apprendre qu'on a telle ou telle maladie, même si c'est bénin des fois, de comprendre comment ça fonctionne notre médication, de comprendre les symptômes, tout ça, et on peut facilement se mélanger. Par soit inquiétude, par stress, est-ce que c'est quelque chose que vous encouragez de venir accompagner?
Oui, ça peut être quelque chose, mais normalement, mon livre, ça s'adresse vraiment aux baby boomers, donc de 50 à 70, là. Alors, c'est rare
perdu.
C'est plus le 75 et 80, un peu plus avancé. Mais dans ce groupe d'âge-là, c'est sûr qu'il y a de l'Alzheimer précoce, ça peut arriver, là. Donc, dans cette situation-là, oui, effectivement.
Oui, afin d'être mieux encadré. L'autre chose aussi qu'on n'a pas abordé ensemble, mais qui est très, très c'est présent dans votre livre, c'est la santé du cœur, qui est également santé du corps, mais santé du cœur.
Oui, oui.
Est-ce qu'il y a des recommandations? On parle énormément d'alimentation de plus en plus. On a accès à ces informations-là. Est-ce que vous avez vous-même vos trucs et vos recommandations?
Ben, l'alimentation, c'est un peu moins clair. Hein. C'est sûr que si on suit le guide alimentaire canadien, ça va nous aider. Mais c'est encore là, arrêter de fumer.
Oui, ça revient, ça.
25% des causes de maladies cardiaques. Avoir un poids santé. 30% des crises cardiaques sont causées par de l'embonpoint. Faire vérifier sa tension artérielle tous les ans. 50% des gens de 50 ans font de l'hypertension, ils ne le savent pas, parce que la plupart des gens n'ont pas de symptômes.
Ah, ben oui. Mm-hmm.
Faire contrôler sa glycémie, son taux de cholestérol. Ça, c'est toutes des choses qui peuvent provoquer des problèmes cardiaques. Diminuer le stress.
Oui.
L'alcool aussi. Boire l'alcool en modération, dont un verre pour les femmes et deux verres pour les hommes par jour maximum.
Mais l'embonpoint, ça, c'est une préoccupation. Souvent, quand on vieillit, ce que moi, du moins ce que j'entends, c'est « Ah, j'ai pris du poids! » Il y a moyen de prévenir ça. Encore là, on est actif physiquement, mais est-ce qu'on peut dire que c'est normal de prendre du poids quand on vieillit?
Oui, c'est normal parce que le métabolisme est ralenti. Mais c'est sûr, il faut manger moins. Mais en tout cas, il faut écouter son appétit. Hein.
Mm-hmm.
Si on a moins faim aussi. Mais en tout cas, si on s'alimente bien, si on ne mange pas des choses trop grasses, à haute densité calorique, puis on maintient son poids, puis on fait de l'activité physique.
Parce qu'on n'est pas tous marathoniens comme vous, Dr.
Non, c'est ça. Mais c'est normal de prendre un peu de poids, mais c'est lorsqu'on en prend trop.
Oui, c'est ça.
Lorsqu'on en prend trop, c'est ça devient problématique. Parce que là, on augmente la résistance des vaisseaux. Puis le cœur doit travailler plus fort.
Et en terminant, on devrait voir à cet âge-là, on parle de 50, 60, 70 ans, notre médecin combien de fois? Une fois par année, c'est suffisant?
Oui, si on n'a pas vraiment de problème particulier, une fois par année, c'est suffisant. Pour la tension artérielle.
Oui, qui doit être observée là, pour la prévention des maladies cardiovasculaires.
C'est ça.
Et puis, on peut aussi se procurer SOS, Docteur, les petits et grands mots des 50 ans et plus. C'est signé par le docteur Harold Dion. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Ben moi, pareillement.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Eh bien, je suis désolée, on essaie de rejoindre le docteur Gabriel Landry du côté de la clinique A et ça ne semble pas fonctionner. Je vous rappelle qu'il était là pour nous parler d'herpès génital. Il y a Kamal qui est en régie et qui tente de la rejoindre tant bien que mal. On vous tiendra au courant, mais ça ne semble pas être très, très, très fructueux. Désolée de ce petit inconvénient.
Je vais répondre du mieux que je peux.
Vous venez d'entendre Dr. Harold Dion qui me disait, écoutez, je suis médecin, je ne me suis pas préparée pour ça, mais je connais l'herpès génital, je peux en parler un peu. Dr. Dion, vous Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que vous travaillez du côté de la clinique actuelle.
C'est ça.
Donc, vous vous connaissez bien sûr en santé sexuelle. Je voulais aborder ça aujourd'hui parce que c'est une ITS qui est extrêmement répandue. On parle que ça touche un Canadien sur cinq et que c'est celle qui est le plus, la ITS la plus répandue en Amérique du Nord. Il y a différents types d'herpès génital, si je ne me trompe pas.
Oui, en fait, génital, oui, il y a deux types. Il y a le type 1. En fait, qu'on voit principalement au niveau de la bouche. Donc, généralement, avant que les gens commencent à avoir des relations orogénitales fréquemment, ben, on le voit principalement à la bouche. Et le type 2 était aux organes génitaux.
Est-ce que... Bon, comment ça se transmet? Est-ce que... en fait, les causes, je m'intéresse aux causes de la transmission.
Ben, en fait, c'est un contact. Ça se transmet par contact direct de peau à peau.
Mm-hmm.
Donc, en fait, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des symptômes. Donc, en fait, qu'on a le virus, on peut le transmettre même si on n'a pas de symptômes. Alors, donc, si on se transmet de la bouche aux organes génitaux et vice-versa, quoique c'est moins fréquent des organes génitaux à la bouche. Là. Et puis, ça peut aller aussi au niveau du rectum.
Et c'est pour ça, j'imagine, que c'est une ITS qui est extrêmement répandue parce qu'on peut porter le virus sans s'en rendre compte. C'est difficile à identifier, l'herpès génital.
Oui, effectivement. Bien, vous avez mentionné que 20 % des gens avaient le type 2, mais en fait, 80 % ont le
type 1. Non, je ne l'ai pas mentionné. C'est vous qui l'avez mentionné.
Bien, vous avez dit 1 sur 5.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est...
Oui, c'est vrai.
Et puis, en fait, c'est 4 sur 5 ont le type 1.
Ah oui?
Puis celui-là est encore moins, on a moins de symptômes avec celui-là, c'est plus discret. Oui, 90 % des cas de transmission d'herpès sont transmis par des gens qui ne savent pas qu'ils l'ont.
Est-ce qu'on peut avoir l'un des types et tout de même contracter l'autre? Est-ce que c'est possible, ça?
Oui, avant on disait que c'était impossible, mais maintenant on sait que c'est possible. En fait, mais ça va se transmettre, mais ça va être... Mettons, peut-être pas la première fois, ça peut être prendre plusieurs fois. Et puis, lorsque la personne va l'attraper, elle va avoir moins de symptômes. Ça va être moins fort.
Et est-ce qu'on peut avoir l'herpès buccal et tout de même attraper l'herpès génital? C'est possible?
Oui, c'est possible.
On n'est pas immunisé parce que certaines personnes vont entretenir cette pensée-là qui est peut-être un petit peu sécuritaire de se dire « OK, ben moi, j'ai l'herpès buccal, donc je suis protégé, j'attraperai jamais l'herpès génital. » C'est un mythe, ça.
Ben, c'est deux types de virus différents. Alors, donc, on a des anticorps contre le type 1. Donc, alors, quand on attrape le type 2, comme on a déjà des anticorps contre le 1, les symptômes vont être moins aigus.
Mm-hmm. Et, si les symptômes n'apparaissent pas, on fait comment pour savoir? J'imagine que c'est en ayant des tests assez réguliers qu'on peut le détecter.
Oui, c'est ça. Donc, si on a une plaie, on peut faire un prélèvement. Oui. Si on n'en a pas, on peut faire une prise de sang.
Et j'imagine que quand on a des symptômes ou une plaie, ça, c'est assez révélateur, par exemple. Comment on peut identifier, c'est quoi les symptômes de l'herpès génital?
Bien, en fait, ça donne une petite ulcère. Donc, comme un petit trou dans la peau.
Comme un feu sauvage, là.
Oui, c'est ça.
Okay.
Puis, c'est douloureux. Mais au début, c'est un petit point rouge. Je pense qu'on forme comme une petite cloque d'eau, ensuite ça éclate, ça fait une ulcère, puis ensuite ça gagne en croûtant. Mais quand même, ça peut être une vaginite aussi peut faire ça, une infection vaginale peut. Alors, c'est toujours important de faire un test.
Et ça se traite bien, l'herpès génital?
Ben non, en fait, il n'y a pas de traitement. Il y a des comprimés qu'on peut prendre. À ce moment-là, la durée de l'épisode va être moins fréquente, mais ça n'empêche pas le virus de revenir.
Et j'imagine que pour les gens qui en souffrent, en tout cas du moins qui ont contracté l'herpès génital, il y a un rapport à la sexualité qui peut être un petit peu plus peut-être complexe, vu que justement ça ne se traite pas. Ou, à l'opposé, la vie sexuelle peut être quasi, entre guillemets, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais normal.
Oui, ça cause beaucoup de stress psychologique chez les personnes qui sont atteintes. Quoique, en fait, on a dit qu'il n'y avait pas de traitement, mais le traitement qu'on utilise pour... traiter une crise aiguë, si on en prend tous les jours, on peut diminuer quand même la transmission de 80 %.
Mm-hmm.
Donc ça aide les gens. Si on utilise des condoms, ça aide aussi à diminuer la transmission. Mais moi, je recommande toujours des groupes de soutien. Je réfère des gens à des groupes de soutien, puis ils vont discuter avec des gens comme eux qui ont l'herpès. Et puis, avec le temps, ils apprennent à vivre avec ça.
Ouais. Docteur Harold Dion, merci beaucoup de votre générosité. Vous étiez là pour nous parler de SOS Docteur, les petits grands mots des 50 ans et plus, votre dernier bouquin édité chez Caractère. Et en plus, vous nous avez parlé d'herpès génital. Vous êtes quelqu'un de très polyvalent et de très agréable. Merci beaucoup, Docteur Dion.
Ça me fait plaisir.
Merci, Kamal Salifou, à la mise en onde qui a travaillé très, très fort. Chapeau. C'était Marianne Paquette au micro. Nous, on se retrouve demain. Portez-vous bien. Bye-bye.